Là, c'est l'énergie cinétique. Et puis ici, c'est l'énergie potentielle d'interaction du fer. Ça traduit quoi finalement ça? Qu'est-ce que ça permet de calculer? Donc là, les forces, ça permet de calculer. D'où ça vient en fait, comment on a fait pour définir ça? Comment on est arrivé à la définition de cette énergie potentielle d'interaction mutuelle? On n'a pas dit que c'était la dérivée de la force. Là, il y a deux forces. On n'a pas dit que ça, c'était la dérivée de l'énergie potentielle. Que la dérivée de la force, c'était l'énergie potentielle. Parce que quelle force au début on aurait pris? La force de 1 sur 2 ou la force de 2 sur 1? On n'est pas parti de là pour démontrer ça la dernière fois. On est parti du travail des forces intérieures. Donc ça, ça traduit le travail des deux forces intérieures. Ça vient de là. Le travail des forces intérieures est l'opposé de cette énergie potentielle d'interaction mutuelle. Donc dans le cas d'interaction gravitationnelle, voilà ce que ça vaut. Dans le cas d'interaction coulombienne, voilà ce que ça vaut. Et qu'est-ce qu'on avait dit à l'époque? On avait dit que la variation d'énergie mécanique pouvait être égale au travail des forces extérieures non conservatrices. Donc là, d'une part, il n'y a pas de force extérieure. Donc, l'énergie mécanique est une constante du mouvement. Voilà. Et alors, comme j'ai mis là, vous voyez ici, je n'ai pas mis l'indice B pour les vitesses. Donc on ne le mettra plus, puisque par défaut, on est dans le référentiel par référence exacte. Donc on va alléger l'écriture, et donc ensuite, on mettra V1 et V2. Donc là, maintenant, on peut enlever les indices. Donc, un petit degré. Donc de la même manière, pour un système isolé, l'énergie mécanique totale évaluée dans le référentiel par référence exacte est une constante du mouvement, et dans la suite, donc on omettra l'indice B pour alléger les critères. Voilà. Donc, dans le référentiel barycentrique, l'énergie mécanique est une constante du mouvement. Donc, cas gravitationnel, cas coulombien, c'est les deux cas essentiels qui vont nous intéresser. Et éventuellement, le cas de la molécule HCl ou H2, dans ces cas-là, du coup, on aura une autre
interaction. Ouais, dans une épée. Payant.
Voilà, donc vous voyez, conservation de la quantité de mouvement, conservation du moment cinétique, conservation de l'énergie mécanique. C'est comme si on n'avait qu'un seul point matériel, finalement. On va montrer. C'est bon? Alors, maintenant, justement, on y arrive, on va montrer que l'étude du mouvement de ces deux points revient à l'étude du mouvement d'un seul point matériel. Et on va donc se ramener à tout ce que l'on a fait dans le chapitre, par exemple, sur la gravitation. Donc, c'est ça l'intérêt. Donc, réduction du problème à deux corps à un problème à un seul corps. Donc, tout d'abord, présentation de la méthode. Donc, on est dans le référentiel barycentrique, centré au point G. Donc voilà le dessin, c'est le même qu'il y a là, c'est ici.
Ça va franchement. Mieux que la dernière.
entrer dans le référentiel Paris Santé. Donc G est immobile et les points M1 et M2, ben, ils vont bouger par rapport à G. Ah ben, on n'a pas encore montré que c'était. Mais très rapidement, on va se ramener effectivement. Très rapidement, on va montrer effectivement que la trajectoire est plane. Hein, mais pour le moment, on ne l'a pas encore montré. Donc, a priori, référentiel à trois dimensions, le référentiel barycentré, les points M1, M2, donc ils bougent comme ça, hein, par exemple. Et G, lui, est immobile. Alors, si on avait à étudier le mouvement, ben, on a à étudier le mouvement de ces deux points matériels, il y a la première idée qui peut venir, la première méthode donc, qui peut venir, on peut utiliser, c'est la méthode avec le principe fondamental de la dynamique. Donc le PFD, Florent. Hein, le PFD. Donc on applique à chacun des points matériels dans le référentiel barycentrique. Hein, maintenant on y est. Bon ben voilà, avec des notations évidentes, M1 pour la dérivée seconde de R1 par rapport au temps est égal à la force de 2 sur 1. Et puis ici, M2 pour la dérivée seconde est égal à la force de 1 sur 2. Et la force de 2 sur 1, c'est l'opposé de la force de 1 sur 2. Voilà. Alors pourquoi après je dis qu'on aboutit à un système de 6 équations scalaires ? Ben, si on projette selon x, selon y, selon z, si on projette ça, ça, qu'est-ce que ça donne en projection ? Ben, m1 fois x 2.1, m1 fois x fois y 2.1, et m1 fois z 2.1. Maintenant, la force, elle dépend de quoi, la force ? De la distance mutuelle entre les deux points. Donc ça sera du style dans la distance mutuelle, comment elle s'écrit? R1 plus R2. R1 plus R2. Oui, mais en fonction des coordonnées. C'était ça, là, à gauche, on a fait intervenir les coordonnées cartésiennes. Donc comment s'écrit la distance mutuelle, petit r, en fonction des coordonnées de chaque point?
Le module de R1.
Pourquoi des 6 équations ? Ah, tu projettes sur un
truc qui règle.
Voilà,
c'est ça.
Ça.
Donc on va obtenir, on va obtenir des équations bien compliquées. M1 est plein de points, égale donc la coordonnée de la force qui va faire intervenir les différences de x2 moins x1, de y2 moins y1. C'est un peu ce qu'on avait avec Maple hier, la semaine dernière, en plus compliqué.
Plus de 3 fois ça.
Donc on aboutit à un système de 6 équations scalaires, là il y en a 3 et là il y en a 3, couplées. Et à chaque fois vous avez un mélange de x, de y, de z, donc c'est compliqué. Donc on va pas faire comme ça.
Comme un bébé.
Vous en doutez.
Un bébé bourré, un bébé.
Donc on va faire autrement.
Ah si, j'ai trop bien dormi. À partir du moment où je me suis couché, je
pourrais dormir. Alors,
parce que par contre, au moment où je me suis couché. C'est ça qui est bien, quand tu bois, tu le regardes. Allez, je vais faire mon cours en anglais.
Pourquoi tu fais ça ?
Hein ?
Pourquoi tu fais ça ?
Je sais pas, aujourd'hui j'ai commencé.
Alors, si on réalise le calcul
2
sur M2 moins 1 sur M1, le but c'est de faire apparaître la distance mutuelle M1 M2 et de faire apparaître en fait R2 moins R1. Qu'est-ce que ça vaut R2 moins R1? R2 c'est GM2, R1 c'est GM1. Donc si on fait la différence R2 moins R1, on obtient le vecteur MH2. Donc c'est ça qu'on va faire apparaître. On va essayer de faire apparaître la variation de ce rayon. Mutuel, enfin de cette distance, enfin de ce rayon MM2. Alors on fait la différence. On fait la différence donc 2 sur M2 moins celle-là. Donc on a divisé préalablement par les masses. Et on fait la différence. Ça moins ça. Donc ça nous donne dérivée seconde de R2 moins dérivée seconde de R1 égale ben ça moins ça. On voit qu'on peut mettre la force de 1 sur 2 en facteur de 1 sur M1 plus 1 sur M2. Donc le rayon vecteur relatif, la petite r, c'est M1 M2 qui vaut bien R2 moins R1. Et on peut donc écrire, je vais écrire ici, dérivée seconde de R par rapport au temps, égale 1 sur M1 plus 1 sur M2, fois la force de 1 sur 2. Ça, c'est homogène à une masse. Donc on définit mu. Mu, c'est une masse. On définit 1 sur mu égale à ça, et mu égale à ça. Et mu, c'est bien une masse. Donc on définit mu, la masse réduite, telle que son inverse soit égal à 1 sur M1 plus 1 sur M2, qui fait que mu bah, est égal au produit des masses sur la somme. Et donc de cette manière-là, on peut en déduire, si on reprend cette équation-là, eh bien que mu fois la dérivée seconde du rayon vecteur par rapport au temps est égal à la force. Donc on voit, donc avec cette petite manipulation finalement toute simple, que le rayon vecteur R, ben, il vérifie une équation qui ressemble à quoi? Au PFD appliqué à quelle particule? C'est pas appliqué à G, ça. C'est appliqué à une masse, à quelle masse? À une masse fictive de valeur mu, et qui serait soumise à une force, qui est celle, donc, qui serait exercée à la force de rayon.
Voilà. Trop lourd, vous faites chaleur. Waouh.
Oui,
alors
on va attendre, on va alors, voilà, donc mu fois la dérivée seconde de R est égale à cette force de 1 sur 2. Alors, dans la suite, qu'est-ce que l'on va faire? Bien sûr, on constate que c'est comme si on avait écrit le principe fondamental de la dynamique à une masse mu. Eh bien, on va définir. Regardez bien ce dessin. Là, oubliez ce qui est au-dessus. On retrouve le dessin qui est là. On définit une particule fictive de masse, ou réduite, pareil, de masse bien mu. Et où est-ce qu'on va la mettre, cette masse-là? Bien, on va la mettre à une distance de G égale au rayon vecteur. Donc on va définir le rayon vecteur de cette particule, c'est-à-dire Gm, bah, égal à R, donc égal à M1, M2. Donc cette particule fictive, elle est bien, hein, on a ici Gm, M1, M2 est là, donc on prend au fond l'angle, voilà, on l'a mis ici, et elle a pour masse mu. Donc elle n'existe pas, cette masse. Ça va être un intermédiaire de calcul. Elle a pour masse mu, et pour rayon vecteur Gn égale au rayon vecteur relatif M1, M2. Et elle est soumise à quelle force? Eh bien, celle qui s'exerce sur la force 2, la particule 2. C'est ce que nous dit cette formule-là. Tout se passe comme si on avait une particule de masse mu, dont le rayon vecteur, donc on est dans le référentiel barycentrique, donc par rapport à G vaut R, donc on retrouve M1, M2 égale à Gm, est soumise à la force sur le point 2. Donc elle est là, la particule. Et cette particule, ben, elle bouge aussi. Mais quel est l'intérêt de tout ça? C'est qu'on n'a plus qu'une seule particule. Elle est soumise à quel type de force? Voilà, c'est une force centrale. Donc, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Le mouvement est plan. Quoi d'autre? Conservation du moment cinétique. La loi des airs. Si on a une force en 1 sur R carré, ben la trajectoire, c'est une conique. On peut se ramener à des choses qu'on a déjà vues lorsqu'on étudiait simplement un seul corps. Donc c'est ce que j'ai fait ici, ce que j'ai dit ici. Le mouvement des deux points matériels se ramène. Bon, même si là, c'est encore un peu rapide, parce qu'il faut quand même montrer que, connaissant le mouvement de M, on pourra revenir au mouvement de M1 et de M2. Et on va voir qu'on peut le faire très facilement. Donc le mouvement des deux points matériels, en fait, va se ramener à l'étude du mouvement d'un seul corps soumis à une force centrale. Et ça, on l'a déjà fait. Voilà. Donc quand on a deux corps en interaction, même s'ils ont des masses pratiquement égales, hein, enfin, donc tout bouge, eh bien on va se ramener à un point matériel. On va étudier le mouvement de ce point matériel et ensuite on pourra toujours se ramener au mouvement de M1 et de M2. Alors que si on avait d'emblée étudié les mouvements des points M1 et M2, ça aurait été certainement beaucoup plus compliqué. Et alors la remarque, c'est pour montrer que finalement, jusqu'à maintenant, on n'avait pas besoin de cette théorie-là. Parce que jusqu'à maintenant, on considérait par exemple que le point M1, ben c'était la Terre, et que le point M2 était un satellite artificiel. Ou alors M1 c'était le Soleil, et M2 c'était la Terre. Et prenons l'exemple de la Terre ici, et du satellite artificiel là-bas. Donc que vaut la masse réduite déjà ?